10h07 sur France Inter, Ali Rebeilly, bonjour, vous avez survécu à la canicule jusque-là.
Oula, si vous racontez ma nuit, Neil Thompson, enfin bon. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux?
Pas tant que ça, non. Ah,
bienvenue au club.
C'est épisodique. Ça me prend par bouffée, c'est épisodique.
Ouais, ouais. Par bouffée de chaleur. Voilà. Allez, à tout à l'heure, 11h. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse à tous ceux qui ont décidé de dire goodbye aux réseaux sociaux, ceux qui ont décidé de supprimer leurs comptes Facebook, Instagram ou Twitter. Nous verrons ce qui pousse à tourner le dos à ces moyens numériques qui permettent de partager, de s'informer, d'échanger, de cultiver ou de créer tout type de relations plus ou moins solides et même de draguer, paraît-il. Et vous, envisagez-vous de quitter Facebook et compagnie? Avez-vous déjà franchi le pas? Au fond, quelles sont vos motivations profondes, celles qui vous poussent à vous déconnecter définitivement? Quitter Facebook rend-il plus heureux, comme l'affirment des chercheurs de l'université de Copenhague? Racontez-nous tout par courriel, grand bien vous fasse, à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Francesca et Adrien attendent vos coups de fil. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebeilly.
T'as vu, tout le monde s'est précipité sur FaceMash.
Ouais.
Mais c'est pas parce qu'ils voyaient des photos de filles canons. Tu vas n'importe où sur Internet, tu trouves des photos de filles super canons.
Ouais.
C'est parce qu'ils ont vu des photos de filles qu'ils connaissaient. Tout le monde volait sur le net pour se rencarder sur ses amis. Alors pourquoi ne pas concevoir un site avec tout ça? Amis, photos, profils, des contenus qu'on peut visiter, parcourir. Pourquoi pas quelqu'un qu'on a vu à une fête?
Ça devra être sélectif.
On devra connaître les personnes du site pour passer à d'autres pages, tu vois, se faire brancher comme le phénix.
Je lui ai dit que je trouvais tout ça super. Il n'y avait rien à pirater, les membres allaient fournir eux-mêmes leurs photos, leurs informations, et tout le monde avait la possibilité d'inviter ou de ne pas inviter ses amis à les rejoindre. Dans un monde où les relations sociales sont la base de tout, c'était le Graal.
Un extrait de The Social Network, le chef-d'œuvre de David Fincher en 2010. Pourquoi quitter les réseaux sociaux? Pour répondre à cette question, quatre invités. Bonjour Catherine Lejal.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous avez publié chez Erol « J'arrête d'être hyper connecté ». Bonjour Michael Stora.
Bonjour Ali.
Psychologue et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Bonjour Sébastien Dupont.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, thérapeute familial, chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Dernier ouvrage paru, La famille aujourd'hui, aux éditions Sciences Humaines. Et vous êtes en duplex de France Bleu, Alsace. Bonjour Abnou Gnaba.
Bonjour Ali.
Vous êtes anthropologue et vous avez fondé le cabinet Sociolab. Et vous avez notamment travaillé sur le réseau Facebook. Alors première question simple mais qui permet de bien comprendre notre sujet du jour. Comment expliquez-vous le formidable succès d'un réseau social comme Facebook inventé par Mark Zuckerberg en 2004 à Abnou Gnaba?
Déjà la mécanique est redoutable, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en lien deux personnes qui se connaissent, qui vont connaître une personne en commun, et ainsi de suite, donc par un système pyramidal, c'est quasiment exponentiel. Donc du coup, Facebook nous a ouvert la possibilité d'être amis avec le monde entier.
Alors les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, ont permis et permettent toujours une certaine forme de reconnaissance. Ça explique une partie du succès des réseaux sociaux.
Le principe de l'être humain, là c'est l'anthropologue qui parle, c'est d'être un lien. S'il n'y avait pas un autre être humain un jour, jamais j'aurais conscience d'être un sapiens. Donc c'est parce que l'homme est un lien qu'il est un homme. Qu'est-ce que fait les réseaux sociaux numériques? Ils démultiplient sans limite la possibilité de créer du lien, donc de la reconnaissance. Le problème qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est à quel moment j'arrête de me regarder dans des miroirs qui ne sont plus les miens.
Michael Stora.
Oui, je rejoins un peu cette idée, c'est qu'au fond, Facebook est un amplificateur, un révélateur et un facilitateur, j'ai envie de dire quand même, de notre narcissisme et donc des fragilités que tout être humain fait qu'il a besoin profondément d'exister dans le regard de l'autre. Et je pense que c'est ce que Facebook est venu nous montrer.
Catherine Lejal, les réseaux sociaux ont complètement changé notre rapport au temps et à l'espace. Et c'est assez jouissif et ça explique peut-être une partie du succès des réseaux sociaux.
Tout à fait, donc je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je rajouterais aussi quelque chose que Facebook a permis, c'est de rentrer dans l'intimité des gens. c'est-à-dire de les voir dans des coulisses, d'avoir de l'information sur des gens qu'on vient de rencontrer et qu'on n'aurait pas eu sans Facebook, et aussi voir justement leur intimité parce que les gens l'exhibent et se sentent exister parce qu'ils déposent des choses sur Facebook.
Et sur ce rapport au temps et à l'espace ?
Sur ce rapport au temps, c'est aussi la possibilité d'être multiple. Tout devient aussi urgent, immédiat. Le temps est plus intéressant parce qu'on peut faire du multitasking.
C'est quoi le multitasking ? Multitâche.
C'est pouvoir faire voilà, plusieurs choses à la fois. Et on est dans une culture de l'urgence. Alors, on va le voir tout à l'heure, pourquoi Facebook a moins de succès, par exemple, que Snap. C'est que Snap a su, avec des photos qui finalement étaient éphémères, jouer sur cette appétence de la nouvelle génération pour tout ce qui va être justement éphémère. Ce qui va être un pop-up store. Quand on se connecte pour réserver un hôtel, on nous dit il reste plus que deux hôtels, trois personnes sont en train de le réserver. Et ça ajoute de l'intérêt, ce que Facebook n'a pas su faire.
Sébastien Dupont, sur quel ressort profond jouent les réseaux sociaux pour nous harponner et nous rendre accros ? Je rappelle qu'il y a au moins 2 milliards de personnes à travers le monde connectées à un réseau social.
Moi, je pense que ça répond beaucoup à un sentiment à un besoin, bien sûr, de reconnaissance, comme l'ont dit les autres intervenants, mais aussi le sentiment d'être en lien avec les autres, d'être même en appartenance avec les autres, à une époque de plus en plus individualisée. En fait, ça permet les deux, individualisation et appartenance. Je suis tout seul derrière mon écran, c'est moi qui choisis mes amis, qui rentre, qui sort du groupe de mes amis, et en même temps, ça me permet d'être toute la journée en lien avec beaucoup d'amis et peut-être de plus en plus d'amis, c'est-à-dire à la fois une quête de reconnaissance, mais on pourrait presque parler d'une quête de célébrité, c'est-à-dire que par les réseaux sociaux rentre dans la vie intime cette logique de l'audimat, cette valeur de la célébrité. Chacun veut être populaire. Pour moi qui travaille beaucoup avec les adolescents, c'est vraiment la valeur principale aujourd'hui, la popularité auprès des autres, dans son établissement scolaire, et ça permet de se rapprocher ou d'avoir l'impression de se rapprocher de cet idéal social.
Michael Stora.
Oui, je rejoins un peu ce qui est évoqué, mais il ne s'agit pas simplement d'adolescents sur Facebook. D'ailleurs, on le sait, les adolescents ont quasiment quitté Facebook. Donc on se voit bien que même les adultes d'irresponsables continuent à garder cette forme d'audimat intime et vont rechercher des sortes de retours sur investissement affectif dans un désir de reconnaissance, même si on peut se dire qu'il y a aussi une grande partie des gens qui gardent Facebook comme simplement un moyen de rester en contact parce qu'ils vivent séparés les uns des autres.
Exactement, et notre collaboratrice Lorraine Bess nous disait au bureau qu'elle ne se voyait pas quitter Facebook tout simplement parce que ça altérerait sa vie sociale et que pour elle, Facebook facilite l'organisation de sa vie sociale. Abdou Gnaba.
Non seulement ça la facilite, mais ça la permet même. Pour beaucoup, on pourrait même plus penser vivre sans Facebook, parce que c'est la façon peut-être la plus directe de communiquer, c'est-à-dire qu'on communique en images. Et pour résumer ce qui a été dit, c'est vrai, il y a cette double injonction d'individualisation, je dois être moi-même et exister par moi-même, et ce besoin d'appartenance. Mais comment je le fais ? Ben, je le fais en mettant en scène. Ce qui fait que je vis complètement dans la société du spectacle, société de consommation, et je fais de moi-même une propre marque. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes mis en scène, essayez de couper. C'est très difficile, on va en parler, il y a un sentiment addictif. Un vrai sentiment de manque qui est au moins équivalent à celui de la cigarette.
Et Catherine Lejal, la pratique des réseaux sociaux est quasi inévitable pour entretenir des relations sociales ou professionnelles ?
Alors effectivement, il y a aussi le LinkedIn et les relations professionnelles, mais aujourd'hui, on existe parce qu'on pose des choses sur les réseaux sociaux, parce que les autres réagissent et vous disent que ce que vous vivez est extraordinaire. Donc aussi une espèce de dépendance, puisqu'on n'est plus relié à ces cinq sens qui vous disent ce que tu manges est excellent, ce que tu vis est super, mais on attend en retour des autres. Donc on est à la fois dedans et dehors.
Allez, dites-nous au 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com si vous avez envie de quitter les réseaux sociaux. Dites-nous tout également sur notre page Facebook. Il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Très actif sur les réseaux sociaux.
Oui, moyennement.
Alors il n'y a pas que Facebook dans la vie. Vous êtes intéressé ce matin à un autre réseau social, Instagram, et sa représentation de la réalité.
Ouais, bien sûr, si vous préférez les photos, il y a toujours le service Instagram qui permet de publier des photos avec des filtres sympas. Et qui sait, peut-être que votre photo va devenir populaire. C'est pas... Non, je déconne. Quand on regarde les photos populaires sur Instagram, il y a des filles bonnes, 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 un animal mignon et des filles bonnes. Dire qu'il y en a qui essayent d'être populaires en postant une photo de coucher de soleil. Ils sont naïfs. Faut montrer ses nichons.
Donc c'est un extrait qui plaît beaucoup à notre réalisatrice Claire Destacan. Donc c'est un extrait de la vidéo du youtubeur Cyprien à propos donc du réseau Instagram justement. Alors petit rappel, hein, parce que Instagram n'est pas encore aussi connu que Facebook. C'est un réseau social créé en octobre 2010, donc bien après Facebook, hein, dans la chronologie de ces réseaux sociaux, et qui compte aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs actifs et qui est en train de passer devant Twitter, hein, en termes d'utilisateurs actifs. Alors deux autres chiffres, hein, presque 100 millions de photos ou de vidéos postées chaque jour et presque, attention, 4,5 milliards de likes par jour. C'est vous dire quand même, hein, la taille du machin. Alors le principe est simple, hein, plus simple que Facebook ou Twitter. On publie simplement des photos sur son compte et puis on peut suivre d'autres comptes mais sans avoir besoin d'être accepté comme ami. Et puis en fait on aime, on like ou on commente mais de façon très courte.
Alors comme son nom l'indique, Instagram c'est surtout dédié aux photos.
Oui, Instagram c'est le réseau par excellence de la photo. C'est l'image que l'on publie qui importe le plus. C'est l'image instantanée donc. Et Instagram du coup c'est une sorte d'outil d'expression et de collection de tous ces instants de nos vies dont on capture une image. Et ça donne à première vue l'impression d'une grande vérité, un témoignage instantané donc sur le quotidien de chacun de ses utilisateurs. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Parce que une des plus fortes particularités d'Instagram, c'est l'intégration de filtres. Vous prenez une photo et vous pouvez ensuite lui appliquer un filtre. Alors, il y en a plus de 25 aujourd'hui, hein, de ces filtres. Et dès le début, il s'agit donc de faire de la photo non pas tellement un témoin instantané d'une réalité, mais l'instrument d'une reconstruction de la réalité à travers justement un filtrage. D'ailleurs, double filtrage, hein, puisque c'est non seulement le filtre de ce que je décide de publier ou non, et puis le filtre de l'apparence que je lui en donne.
Alors le monde, selon Instagram, c'est donc un monde filtré.
Oui, non seulement mon rapport au monde est filtré, mais aussi donc mon rapport à moi-même. En appliquant des filtres, mais pas seulement, aussi en recadrant, en sélectionnant cette photo plutôt que celle-là, en la commentant presque pour orienter son interprétation, eh bien je filtre dans son ensemble le rapport que j'ai à moi-même. Alors souvenez-vous, Ali, de Descartes, hein, et de son fameux « je pense donc je suis ». Pour Descartes, la conscience est la faculté qui permet une transparence de soi à soi, c'est-à-dire en fait d'une connaissance sans filtre de soi-même et que l'on peut étendre ensuite à une connaissance sans filtre du monde. Hein. Descartes dit qu'elle est, en ce cas-là, cette connaissance claire et distincte. Alors ce n'est pas parce qu'avec Instagram on illustre notre vie que l'on en a une connaissance plus claire et distincte, ce n'est pas parce que la photo montre une réalité qu'elle la désigne précisément.
Et en même temps, on se compose tous un personnage social.
Oui, c'est vrai, dans la vraie vie, on n'applique pas des filtres, mais on peut se composer un visage, un costume, une coiffure, on peut toujours se donner une apparence face aux autres. C'est la différence que fait Montaigne entre le moi social que l'on présente aux autres et le moi privé que l'on est pour soi. Alors c'est toute la complexité de la promesse d'instantanéité d'Instagram. Si le réseau est bien social, il présente donc des instantanés qui n'ont rien de spontané et qui masquent la réalité plus qu'ils ne la révèlent. Alors on peut le regretter, on peut dire que c'est un signe de plus de la superficialité de tous ces réseaux et de la façon dont ils déréalisent le monde, mais on peut aussi, au contraire, l'accepter et utiliser ces réseaux comme autant de champs de composition et d'expression d'identités multiples.
Commentaire, Michael Stora.
Oui, j'aime bien cette idée que Internet était un bal masqué, où chacun portait un masque, et finalement ce masque, comme disait un peu Oscar Wilde, finalement il est souvent plus révélateur de ce que l'on donne à voir dans la réalité. Et je trouve qu'en effet, Instagram peut donner cette image d'un espace où les gens finalement se mettent en scène, parfois de manière plus créative. Pas toujours d'ailleurs.
Abdou Gnaba.
En même temps, c'est la possibilité de se créer un avatar et donc de se sublimer. Ce qui est intéressant, c'est la création de communautés. Parce que finalement, c'est un peu ce que disait Cyprien, c'est vrai qu'il y a des techniques pour être populaire, mais il y a aussi des groupes qui se forment et des tribus qui existent et qui ne seraient pas existées, enfin qui n'auraient pas existé en réalité.
La petite philo de la pub et des marques, c'est tout les jeudis dans Grand Bien Vous Fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lauren Bess avec l'aide de Clara Marliot. Et c'est réalisé par Claire Destacan qui danse déjà en régie.
What you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can
feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
The Weeknd et Daft Punk, ça fait du bien. I feel it coming.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h25, pourquoi quitter les réseaux sociaux? C'est notre thème ce matin avec Catherine Lejal, Abnou Gnaba, Mickaël Stora et Sébastien Dupont.
Aujourd'hui, on s'engage plus. C'est inutile. Aujourd'hui, c'est aussi facile de se commander un être humain sur Tinder qu'un bouquin sur Amazon. Notre intimité est devenue une série d'émoticônes. On considère qu'un petit texto veut tout dire, qu'un petit cœur montre l'étendue de nos sentiments. On voudrait tout faire, tout voir, tout vivre. Plus de jeu, plus de séduction, et surtout pas de romantisme. On peut regarder et envier la vie des autres. Et puis on déprime. Et on s'en veut de déprimer. L'amour devient affection, qui devient amitié. On s'attache même plus, on crée des relations à durée limitée, des sex friends. Alors qu'en vrai, on n'est même plus des amis. Peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Qu'à force de trop se connecter en ligne, on en oublierait de se connecter aux autres. Que les petits défauts des gens les rendent plus beaux et plus sincères. Mais c'est fini, on y va. Enfin, on se déconnecte de Facebook. On éteint son portable et on boucle son sac à dos. La route se dessine à l'horizon, on est prêt. La voix des copains sera la plus belle des musiques et leur sourire le plus beau des cadeaux.
Un extrait du court-métrage « L'aventure moderne » de Victor Apchi en 2015. Et je recommande d'ailleurs son site. Très belles photos et très belles vidéos. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Comment allez-vous? Bonjour Benoît de Fontenay-sous-Bois. Comment ça va?
Eh ben, ça va très bien depuis que j'ai quitté Facebook.
Ah, ben racontez-nous tout. Depuis combien de temps vous avez quitté Facebook, Benoît?
Ça fait pas très longtemps en fait. J'étais un gros accro, je checkais mes notifs tout le temps. Et maintenant, eh ben, je ne check plus mes notifs, donc je gagne beaucoup de temps.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Facebook?
Alors, l'impulsion a été donnée par une amie, si vous voulez, qui a quitté Facebook il y a 2 ans de cela. Et cette amie-là, depuis, est très épanouie, très heureuse. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si ça a marché pour elle, on va essayer, ça peut marcher.
Mais est-ce que c'était devenu addictif chez vous?
Ah oui, c'était absolument complètement compulsif, quoi. Je checkais des notifs pour rien, en fait. Et c'est après avoir désinstallé l'appli que je me suis rendu compte que je pouvais pas checker pour voir ce qui se passait. Et que, en fait, je gagnais du temps parce qu'il se passerait jamais rien de toute façon sur Facebook. Combien de fois on voit des articles, des commentaires, des photos qui ont absolument rien à voir, en fait, avec ce qu'on vit tous les jours, notre vie à nous, en fait. Voilà.
Et Benoît, moi, je dois vous avouer, je ne suis pas sur Facebook. Et beaucoup de gens me disent, quand je m'ennuie, je vais faire un petit tour sur Facebook ou Instagram. C'était votre cas?
Oui. En fait, c'était mon cas parce que je pensais que ça allait me tenir bien informé. Mais le problème, c'est qu'il y a un flux d'informations qui est tellement immense qu'on peut pas tout fouiller tout en même temps. Donc forcément, on fait du tri, on clique sur du putaclic.
C'est quoi le putaclic?
Le putaclic, c'est le concept de faire une pub ou n'importe quoi, ou une sorte de post qui va être très viral. Donc par exemple, tag un ami qui par exemple boit beaucoup trop le vendredi soir. Et là, il y a une liste de prénoms et vous taguez. Alors ça, c'est complètement absurde. Mais c'est ce qui marche vraiment très très bien actuellement sur les réseaux sociaux. Très abrutissant aussi d'ailleurs.
Alors Benoît l'évoque à demi-mot, mais j'ai l'impression que ça génère de l'anxiété du point de vue de la comparaison sociale Facebook et tous les autres réseaux sociaux Abdougnaba.
Ali, pour faire honneur à votre goût de la cuisine, je dirais que les réseaux sociaux, ça se mesure comme une andouillette au nombre de A. Et donc là, notre étude nous a montré 3 A fondamentaux qui sont l'anxiété, l'addiction et l'authenticité. Alors l'anxiété, c'est évidemment le moteur le plus fort parce qu'on a l'impression de louper quelque chose quand on n'est pas connecté, et surtout, il y a un tel flot d'informations sans sens, sans analyse, qui est jeté de façon brutale et en continu, qui ne vous permet pas de prendre un recul nécessaire et qui vous déborde.
Benoît, l'usage des réseaux sociaux peut déclencher des émotions négatives, influencées sur notre état émotionnel. Si un de vos collègues ou un de vos amis publie sur Facebook de magnifiques photos de ses vacances aux Maldives ou ailleurs, et que vous regardez ces photos, coincées chez vous, dans votre bureau, ça suscite quoi comme émotion chez vous? De l'envie, de la jalousie?
Non, pas tant d'envie.
Dites-nous la vérité, Benoît, allez.
C'est plutôt du contentement, surtout quand je vois des photos, par exemple, d'un nouveau-né, d'une famille qui est en train de se créer, d'un mariage, ce genre de choses. Mais sinon, j'ai absolument aucun... je m'intéresse pas du tout à vraiment ce que les gens... va le montrer fièrement au monde.
Michael Stora, vous dites que Facebook, c'est un algorithme qui favorise la rivalité et la compétition.
Oui, écoutez, concrètement, Facebook est quand même construit sur un modèle très américain, dans cette idée d'aller bien à tout prix, du amazing, etc. Donc finalement, on se retrouve soi-même à montrer à quel point on va bien. Mais le problème, c'est à quel point dans sa vie réelle et dans cette capacité à s'ennuyer, parfois on se retrouve face à soi-même et tout ne va pas si bien que cela. Et donc cette sorte de compétition, entre guillemets un peu dans ce qu'on appelle le self-branding, ou maintenant j'ai envie de dire le self-narcissisme, ou le narcissisme branding, fait qu'à un moment...
Branding, ça veut dire marque. Hein,
la marque, c'est-à-dire qu'on devient soi-même sa propre marque, et à quel point à un moment, d'une certaine manière, ce retour sur investissement ne va plus aussi bien fonctionner. Et on voit que des gens... peuvent chuter en dépression quasiment s'ils n'ont plus suffisamment d'audimat.
Sébastien Dupont, duplex de Strasbourg.
Oui, je pense que ce qu'on pourrait ajouter, c'est que le like, c'est aussi une unité de valeur. C'est-à-dire à une époque très relativiste ou très libertaire, où c'est vrai qu'on peut vivre un peu la vie qu'on veut, où l'individu a une grande liberté de manœuvre, où tous les choix de vie se valent, on pourrait dire. Les gens ont néanmoins besoin de se sentir jugés, de sentir qu'ils ont une valeur aux yeux des autres. Et une unité de valeur simple, plus qu'une norme morale, c'est le like, le nombre de likes. C'est ça dont je parlais tout à l'heure avec la logique de l'audimat, c'est construire sa vie comme une marque, comme disait Michael Stora, c'est-à-dire comme quelque chose qui est évalué par le nombre de consommateurs, le nombre de téléspectateurs, un petit peu comme les émissions qui sont jugées non pas sur leur contenu, qui a finalement peu d'importance, mais sur le nombre de téléspectateurs qui les regardent, ce qui est souvent le plus important pour les chaînes de télévision, par exemple, ou les centres de production.
Abdougnaba, c'est une blessure narcissique de ne pas recevoir assez de likes, de retours sur ce que l'on met en scène de soi. L'échec est plus visible forcément sur le réseau social. Alors on peut avoir envie de le quitter justement, parce qu'on rend public son échec quand on n'est pas très bien suivi ou quand on est... voilà.
Ben, on passe du quitter, donc du qui es-tu, à quitter. Mmh. C'est-à-dire que si le quitter n'est pas assez rempli, alors il vaut mieux quitter. C'est un espèce de divorce préventif. Mais évidemment, comme nous ne sommes pas dans une culture de l'échec, et comme le disait Michael, on est vraiment dans, avec Facebook en tout cas, dans une culture américaine du amazing, il faut vraiment aller bien.
Amazing, ça veut dire
c'est magnifique, c'est
formidable.
Formidable. Bah si vous n'êtes pas formidable et comme vous vous êtes donné en pâture à des gens qui ne font pas partie de votre cercle, donc qui ne sont pas forcément bienveillants, alors vous en payez le prix et les blessures narcissiques sont terribles.
Catherine Lejean.
Une autre fonctionnalité qu'on n'a pas encore abordée aujourd'hui et qui justement génère beaucoup d'émotions négatives, c'est l'information sur est connecté. Dans la relation amoureuse, c'est je suis en train d'attendre, il pense pas à moi, il me répond pas et il est connecté. Mais je pense qu'aussi l'insuccès de Facebook par rapport à Snapchat et Instagram, c'est justement d'être trop focalisé sur un individu. Alors qu'Instagram permet de la création artistique et donc de sortir un peu de soi. On n'est pas centré sur ce qu'on fait, mais on crée quelque chose et on l'offre aux autres. Et de façon également très ludique. Donc sur ce nouveau format narratif qui n'est plus l'écrit, mais qui est l'image, la vidéo, et qui permet des choses beaucoup plus créatives et qui ne sont pas que son nombril.
Michael Stora.
Oui, et en même temps, je trouve c'est intéressant le terme de like. On peut le entendre aussi comme un comme. Donc il y a aussi cette idée du like qui est dans l'idée que nous serions tous un petit peu sur un, d'une certaine manière, sur une forme de clonage de nos émotions. Et c'est aussi une tendance qui, parfois, on peut aussi la retrouver malheureusement sur Instagram.
Merci beaucoup Benoît de nous avoir appelé. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter ?
Oui, je voudrais aussi rajouter une autre chose, que c'est une autre expérience à laquelle, enfin, dans laquelle beaucoup de gens vont peut-être se reconnaître. C'est que depuis que j'ai supprimé Facebook, il y a une personne qui m'a ajouté, une fille qui m'a ajouté sur Facebook. Et moi, j'avais le réflexe avant de regarder le profil, regarder les photos, ce genre de choses. Et là, j'ai pas pu. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que du coup, j'ai eu une vraie discussion avec la personne. Et j'avais aucun a priori sur son physique parce que je me rappelais plus exactement quoi. Seulement la mémoire. Quoi.
Merci.
Et je pense que c'est mieux. Voilà.
Merci beaucoup Benoît de nous avoir appelé. Bonjour Élise.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous? Vous appelez d'où?
Du 18e de Paris.
Ah bon, très bien. Alors, vous, est-ce que vous avez quitté Facebook ou les réseaux sociaux?
Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre émission que j'adore. Moi, je n'ai pas quitté Facebook en tant que tel, parce que c'est vrai que, comme ça a été dit, c'est vraiment pratique pour organiser sa vie sociale, on va dire. Mais j'ai aussi pris la décision de désinstaller l'application de mon téléphone.
Pourquoi?
Parce que... En fait, bon, j'avais déjà conscience que ça me prenait beaucoup de temps, je m'en rendais compte, mais j'ai surtout eu un déclic, on va dire, en lisant un article qui s'intitulait « Comment les applis vous volent votre temps ?» Et ce terme de « temps volé », ça m'a vraiment fait réagir et je me suis rendu compte qu'effectivement, au lieu de faire des trucs qui m'intéressaient plus, de manière machinale, j'allais appuyer sur le petit icône Facebook et perdre mon temps, entre guillemets, à regarder des vidéos de petits chats, ou même si j'aime beaucoup les petits chats, bon, ben, ça m'intéressait pas forcément plus que ça. Et du coup, maintenant, c'est vrai que même si de temps en temps, j'ai un peu le réflexe de chercher cette icône pour me divertir quand je sais pas forcément quoi faire, ben, globalement, je dirais que je me sens un peu mieux de pas avoir cette application sous la main. Et que moi, pour le coup, contrairement à l'auditeur précédent, ça avait parfois un impact assez négatif sur mon humeur, je dirais.
Et pour aller dans votre sens, Élise, ça peut-être affaiblir son estime de soi, l'usage intensif de Facebook, quand on juge que sa vie n'est pas super passionnante par rapport à celle mise en scène par les autres. Et j'aimerais citer d'ailleurs des chercheurs de l'université de Copenhague qui ont montré que l'abus de Facebook diminuerait notre satisfaction dans la vie et nous rendrait déprimés. Les chercheurs expliquent que cette déprime résulterait de comparaisons sociales irréalistes. Vous êtes d'accord avec ça, Sébastien Dupont?
Oui, tout à fait. En fait, cette déprime liée aux réseaux sociaux peut être liée à deux choses. Peut-être la première chose, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que la comparaison sociale, c'est-à-dire que le sentiment de solitude intrinsèque à la déprime est lié à l'évaluation qu'on a de nos relations aux autres et de notre importance pour les autres. Et comme il a été dit avant, comme sur Facebook, les possibilités sociales sont infinies, on pourrait potentiellement avoir un nombre d'amis d'amis de plus en plus exponentiel, un nombre d'amis infini, les autres vivent des choses qu'on ne vivra jamais, etc., ou encore d'autres choses et encore, on peut avoir tendance, par un mécanisme psychologique, cognitif, à dévaloriser son propre capital social, même s'il était plutôt satisfaisant, et à dévaloriser sa propre vie. Et après, le deuxième facteur, c'est l'accoutumance. Comme toute pratique habituelle, que ce soit fumer de la cigarette, faire du sport ou autre chose, on rentre facilement dans un phénomène d'accoutumance, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un peu plus, d'un peu plus longtemps, d'augmenter les doses et de rapprocher les prises. Et tous les psychologues et les psychiatres savent que l'accoutumance crée de la dépression dès lors qu'on ne peut plus assouvir son besoin qui devient de plus en plus important.
Élise, sur les comparaisons sociales irréalistes qui peuvent provoquer une petite forme de déprime.
Oui, moi je pense que j'ai déjà vécu d'une manière ou d'une autre, peut-être plus pour les voyages que vous évoquiez avant. Même si moi je suis dans un endroit magnifique au bord d'une belle mer, si je vois des photos, je me dis ah c'est encore plus beau là-bas, alors que je devrais être très contente de l'endroit où je me trouve, donc ça m'est déjà arrivé.
Merci beaucoup Élise de nous avoir appelé. Michael Storas, dans votre cabinet, vous constatez des phénomènes d'addiction aux réseaux sociaux?
Alors on va dire que si on étend le terme de réseaux sociaux même à des mondes virtuels tels des jeux en ligne, on peut, par exemple, on a vu dans World of Warcraft, il y a une socialisation, oui, évidemment, mais les jeunes que je reçois ne sont des sortes de caricatures tout de même justement de ce que notre société a engendré. Des jeunes dans le culte de la performance. Maintenant, je n'ai jamais eu concrètement des gens qui m'ont dit « Écoutez, je suis accro à mon téléphone ou à des réseaux sociaux. » En général, il est évident qu'il y a aussi l'idée que ça vient révéler chez des gens une incapacité à s'ennuyer et déjà même, pourquoi pas, une dépression préexistante.
Abdoul Nama.
Oui, merci pour l'exemple des jeux vidéo, parce que c'est la même chose. Les jeunes savent en général très bien faire la différence entre le réel et le virtuel. Et donc, ils sont pas tant déprimés que ça. Et vous savez pourquoi, essentiellement, ils quittent Facebook? C'est juste que les parents s'y sont mis. Ils n'ont certainement pas envie d'être tracés. Eux, ils sont pour la transgression, ils ont envie de s'amuser. Facebook, c'est un peu trop ouvert, c'est un peu trop mainstream, donc grand public. Et ils savent très bien faire la part des choses. Et ils s'amusent. Ils s'amusent grâce à ces réseaux sociaux.
Catherine Lejal.
Tout à fait. Facebook a perdu son attractivité à partir du moment où les parents et les grands-parents, c'est comme une musique. On n'écoute pas la musique de ses parents. On va changer. Par contre, Facebook reste un annuaire. C'est-à-dire qu'on y reste pour des raisons, parce que tu peux pas te créer un compte Tinder si t'as pas Facebook.
Rappelez ce qu'est Tinder pour ceux qui ne connaissent
pas. La plupart des applis, en fait.
De rencontres.
Des applis de rencontres et même plein d'applis te disent, finalement, au lieu de rentrer toutes les infos, on va partir de ton compte Facebook.
Michael,
juste pour compléter, oui. C'est que j'ai reçu, par contre, des patients qui étaient accros à des sites de rencontres. Et à l'inverse de ce qui a été dit dans l'extrait du court-métrage, je pense qu'Emma Bovary aurait adoré Mythic. Il y a des histoires passionnelles qui se vivent sans jamais se rencontrer.
Envie de quitter les réseaux sociaux? Oui, non, jamais de la vie, comme notre collaboratrice Lorraine Bess. Question, témoignage, 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse @radiofrance.com et bien sûr sur notre page Facebook, évidemment.
play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, when I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head, and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I with ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down.
House of Pain, Jump Around en 1992, ça vous rappelle des choses, hein, ça, Timothée Maurice.
Ah, une première soirée.
Ouais. Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h43, pourquoi quitter les réseaux sociaux? C'est notre thème ce matin avec Catherine Lejal, Abnou Gnaba, Mickaël Stora et Sébastien Dupont. Bienvenue Isabelle, vous appelez de Paris.
Oui, bonjour.
Tout va bien pour vous?
Écoutez, très bien, chaudement, mais ça va très bien.
Bon, nous on est dans un studio climatisé, tout va bien.
La chance.
Alors Isabelle, vous êtes plutôt accro à un réseau social, celui évoqué tout à l'heure par Thibaut de Saint-Maurice.
Ouais, tout à fait. Moi j'ai une vie sur Instagram, on va dire, qui est une vie professionnelle, mais qui, disons que je me lève avec Instagram, je me couche avec Instagram, et Instagram a complètement changé ma vie dans la mesure où je suis créatrice. J'ai lancé j'ai essayé de lancer ma marque en fait pendant un an via les boutiques pour vendre mes objets, etc. en France. C'était très compliqué comme beaucoup de créateurs. Et puis un jour ma fille ado m'a dit: mais maman, pourquoi tu t'inscris pas sur Instagram? Et comme c'est vrai que j'adore faire des photos, bon, j'ai un univers, j'ai plein de choses qui font que c'était un réseau qui me correspondait tout à fait, j'ai commencé à poster des photos, j'ai rencontré des créateurs d'autres pays, j'en suis arrivée à créer d'autres objets via ces rencontres, et aujourd'hui j'ai ma marque, j'ai des clients essentiellement en Australie et aux États-Unis, je ne travaille que via Instagram, et ça marche de mieux en mieux, et j'avoue que je trouve que c'est fantastique, et si on sait bien l'utiliser, ça permet des choses, je pense que j'aurais jamais réussi à faire ça autrement en fait.
Et donc d'un point de vue professionnel, jamais vous n'imaginez quitter ce réseau social?
Non. Non, jamais. Puis en plus, je trouve que c'est une ouverture sur le monde qui est fantastique. Moi, j'ai rencontré des tas de gens, enfin virtuellement, mais on s'écrit, ils m'envoient des messages, il y a une reconnaissance incroyable. Je fais des broches, je leur envoie, ils me renvoient des messages. Enfin, je trouve que c'est assez magique en fait. Et oui, non, je pense que si je quitte Instagram, c'est que je ferai autre chose. Professionnellement, en tout cas.
Catherine Lejal.
Je suis très heureuse d'entendre ce témoignage parce que ça illustre le fait que les technologies sont neutres. Elles ne sont ni mauvaises ni bonnes, elles sont ce qu'on en fait. Et professionnellement, c'est une formidable opportunité, aussi bien Instagram que YouTube. C'est la possibilité de se saisir d'un matériau, de poster des vidéos, de poster des photos pour dire voilà ce que je fais. Et c'est une publicité à l'échelle mondiale de façon gratuite.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est intéressant. En fait, vous faites partie de ce qu'on appelle les instapreneurs.
Contraction d'Instagram et d'entrepreneurs.
Et voilà, et d'entrepreneurs. Et c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a eu, je crois, il y a à peu près un mois à Paris, une première convention dans laquelle ont été présentés une cinquantaine d'exemples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un usage qui est apparu dans le réseau. Le réseau n'a pas été créé pour ça, mais c'est un usage qui est apparu. Et donc, effectivement, on en fait à peu près ce qu'on en veut.
Sébastien Dupont, en duplex de Strasbourg.
Oui. Oui, je trouve que ce qui est très intéressant dans le témoignage d'Isabelle, c'est qu'elle montre, elle illustre que Instagram est très adapté à une logique commerciale, comme beaucoup de réseaux sociaux et comme ça a été dit avant. Donc là, ça fonctionne très bien, le potentiel est très important, mais et on comprend mieux pourquoi ça peut parfois être mal vécu à titre personnel ou intime, puisque ça nous oblige à faire de nous-mêmes un objet, à rentrer nous-mêmes dans une logique commerciale, à nous vendre en quelque sorte, et pour certains, avoir le sentiment de ne plus être eux-mêmes et de vendre une version d'eux-mêmes qui n'est pas la véritable identité qu'ils se reconnaissent intimement.
C'est l'extension du domaine de la lutte, cher à Michel Houellebecq, Sébastien Dupont. Merci beaucoup Isabelle. Peut-être un mot de conclusion.
Non, mais après, effectivement, je suis tout à fait consciente du fait qu'on peut être accro aux réseaux sociaux. Je suis aussi sur Facebook, mais j'en parlerai pas là. Et voilà, c'est une question de dosage comme tout, mais je pense qu'il faut être très très vigilant. Ouais, ça c'est sûr, surtout avec les jeunes, mais bon, ça reste quand même un outil incroyable, quoi.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé. Alors Isabelle évoquait les jeunes. Michael Stora, on peut vouloir quitter les réseaux sociaux quand on subit du harcèlement, de l'humiliation, du lynchage, et là ça devient une nécessité vitale de quitter les réseaux sociaux.
Oui, évidemment que... Alors malheureusement, c'est ce qu'on perçoit, c'est qu'au fond, le harcèlement, le lynchage existe et il est amplifié. C'est un phénomène qui fait que les sentiments de honte et d'humiliation sont totalement dévastateurs. Et comme dans une relation avec un pervers narcissique, comme on dit, il faut quitter. Il faut évidemment se préserver. Et on a bien vu malheureusement certaines anecdotes de jeunes qui sont allés jusqu'au suicide. Et on a vu aussi, j'ai envie de faire référence à une histoire très précise d'un jeune qui s'est suicidé parce qu'il a été un petit peu piégé, c'est qu'il appartenait aussi à la très grande bourgeoisie d'une petite ville de province, et que vous savez à quel point cette image que l'on donne à voir, cet idéal, a été mise à mal, et il a été malheureusement jusqu'à mettre fin à ses jours. Donc c'est vrai que cette problématique de l'image, c'est qu'elle nous renvoie aussi à une question qui est celui de l'idéal. Et le problème, c'est que nous sommes dans une société terriblement tyrannisée par cet idéal, et c'est vrai que finalement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles certains réseaux sociaux qui ne sont que des images nous renvoient aussi à des sentiments de ne pas être à la hauteur, éternellement pas à la hauteur. Et c'est peut-être pour ça que, comme à une convention à Austin des geeks, de créer le hate book, c'est-à-dire au fond quelque chose où la parole négative puisse aussi exister. Et à l'adolescence, on a besoin aussi d'exister, pas forcément que dans l'hyper positif.
Sébastien Dupont.
Oui, tout à fait. Moi aussi qui rencontre dans mon cabinet des adolescents, je peux témoigner du fait que les réseaux sociaux amplifient les phénomènes qui existaient déjà avant entre adolescents, de concurrence, de clans, d'exclusion, etc. Mais là, l'amplification est démesurée. Maintenant, tous les collèges et tous les lycées connaissent ce phénomène du lundi matin où beaucoup d'adolescents vont à l'infirmerie scolaire ou évitent de rentrer dans l'établissement, essayent de s'échapper les cours, parce que pendant le week-end, un petit problème, une petite histoire du vendredi a été décuplée, est devenue un lynchage sur les réseaux sociaux. Chaque adolescent derrière son ordinateur peut être beaucoup plus violent verbalement qu'il ne serait en direct. Certains adolescents se retrouvent comme ça humiliés, lynchés, y compris par d'autres adolescents qu'ils ne connaissent pas, et l'adolescent est incapable de revenir. Et pour lui, se retirer des réseaux sociaux, c'est à la fois une solution, mais c'est aussi une grande humiliation. C'est-à-dire qu'accepter de partir, c'est vraiment renoncer à exister dans le groupe et dans cette appartenance qui peut être très forte aux yeux d'un adolescent.
Thibaut de Saint-Maurice, vous qui êtes prof.
Oui, alors il m'est arrivé cette année, pour la première fois, je dois avouer, de séparer deux élèves qui étaient en train de se battre en classe à cause de ce qui avait été dit et écrit sur les murs Facebook. C'était la première fois. Ouais.
Catherine Lejeune.
Alors tout ça, c'est très très vrai sur les adolescents, mais c'est aussi vrai dans la sphère amoureuse où il y a le stalking. Qui
c'est
est,
quoi le stalking? Vous adorez les mots anglo-saxons, Catherine Lejeune.
Ah, je fais tous mes cours en anglais, c'est plus facile.
Alors c'est quoi le stalking?
Le stalking, c'est espionner, c'est fliquer, c'est continuer soit à fliquer ses ex, et ça rend malheureux aussi.
Michael Storin.
Oui, juste pour ajouter, ça repose, j'ai fait partie d'une commission européenne sur Internet Safer Commission. La plupart des réseaux sociaux ne veulent pas investir dans ce qu'on appelle la modération. Ils travaillent sur ce qu'on appelle la modération entre pairs, c'est-à-dire que ce sont les jeunes entre eux qui doivent se modérer, ce qui, comme on peut le voir, est totalement naïf, voire au contraire, on voit bien à quel point l'homme est un loup pour l'homme et que parfois ils ont tendance évidemment à se détruire.
Abdou Gnaba.
Ça dépend toujours donc de ce que l'on fait, des catégories. C'est sûr que là on parle des adolescents, mais parlons aussi des retraités qui retrouvent une nouvelle vie sociale. Ils peuvent suivre et être connectés au monde. Finalement, c'est du nougaro sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi, je me fais du cinéma. C'est-à-dire que oui, c'est un écran et c'est un écran de projection, c'est un écran de fantasme. À partir du moment où on sait que c'est du virtuel et c'est pas que la réalité, c'est-à-dire que le virtuel, s'il n'est pas ramené à une réalité, ne vaut rien. Mais les jeunes le savent. En revanche, l'étude Sociolab de mai 2017 nous a montré que 72% des personnes qui quittent les réseaux invoquent la volonté de rapport plus authentique. Plus authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus simple, sans écran de fumée, sans écran pour nous dissimuler. justement, retour à la réalité.
Et oui, Abdoun Gdama, la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux pose la question de l'authenticité. Quand je me mets en scène sur un réseau social, je décide de ma visibilité, je contrôle mon image, j'utilise des filtres, pour revenir à la chronique de Thibaut tout à l'heure, je gomme les imperfections, j'augmente certaines qualités, je peux même complètement me dissimuler. Et donc, je peux susciter des émotions inauthentiques derrière l'écran.
Exactement. Comme elles sont inauthentiques, elles seront jamais satisfaites. Donc le seul bonheur que puisse nous offrir un réseau social, c'est de rencontrer quelqu'un, de l'aimer, de vivre vraiment avec elle. Mais combien, je pourrais en faire partie, combien le vivent vraiment? Et ce que vont nous dire justement les acteurs de ces réseaux sociaux, quand ils le quittent, ils disent, je cite, « On le quitte pour passer à la rencontre réelle. Retrouver les silences dans une conversation, le goût de s'ennuyer, le sens du toucher et la finesse des émotions, les attitudes, les mimiques et les intonations. »
01 45 24 7000 pour réagir et poser vos questions.
C'était qu'une passe digitale et j'en retiens que ta main. Rouge le pétale sur mon lit d'hôpital et tu disais, promis on se fait pas de mal, promis je monte la clave. Pourtant c'est l'escalade, les sentiers en zigzag. T'étais qu'une passe digitale et j'en retiendrai que dalle, je sais.
Marie-Flore, Passade Digitale.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Comment échapper à cette mémoire indélébile d'Internet? Eh bien, j'ai voulu prendre un exemple concret en essayant d'effacer un profil sur cet autre géant d'Internet, Facebook. C'est là que le calvaire commence. Après une vingtaine de minutes à chercher en vain comment supprimer votre compte sur le site, vous criez à l'aide. Sur le net, les plus désespérés font même appel à des services payants. comme ce site français qui vend carrément une fiche explicative de désinscription. Et quand vous y êtes enfin parvenu et que vous débusquez la porte de sortie, vous pensez être définitivement effacé ? Eh bien non. Facebook conserve tout en mémoire. Ce que vous obtenez, c'est une simple copie. L'oubli est donc quasi impossible sur Internet.
Notre confrère de France Inter, Anthony Bélanger, à l'époque sur un blog d'Arte en 2013, c'est devenu plus facile de quitter Facebook en 2017, Michael Stora ?
Alors,
il paraît que oui.
Alors, personnellement, j'ai un faux profil. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire que j'ai un faux nom. Donc, mon travail est d'observer. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus facile, oui. Semble-t-il. Hein.
C'est le cas, Bougnaba là-bas.
C'est toujours pareil, en fait. Les technologies sont neutres. Qu'est-ce qu'on y met ? Enfin, si on s'inquiète de ce qu'on a mis sur Facebook, c'est qu'on l'a mis soi-même.
Sébastien Dupont, duplex de Strasbourg. Quels sont les événements déclencheurs qui peuvent nous amener à quitter Facebook ou d'autres réseaux sociaux ? Il y a des événements de vie comme ça qui...
Oui, alors selon mon expérience, alors on a d'abord les mésaventures sur le réseau social lui-même, hein, dont on a parlé tout à l'heure, les humiliations ou les conflits aussi, hein, des débats qui deviennent des polémiques, qui deviennent très agressives, etc., qui peuvent fatiguer les personnes, ou encore autre mésaventure, un mauvais recoupement entre vie personnelle et vie professionnelle. On n'a pas fait attention à quel ami on mettait et tout d'un coup son chef se retrouve à voir des photos d'une soirée un peu trop arrosée, etc. Mmh. Bon, voilà. Et sinon, il y a tout simplement des événements de vie assez ordinaires, comme se mettre en couple ou au contraire se séparer. Hein, donc là, se déconnecter pour éviter d'être confronté aux photos de l'ex, aux anciens amis communs qui ont parfois pris parti, etc. Et il y a aussi d'autres événements comme avoir un enfant, ne pas vouloir qu'il y ait des photos de sa famille sur Internet, ou d'autres événements comme... entrer en thèse ou avoir un nouvel emploi où on va être très concentré sur une activité et on veut éviter cette perte de temps liée aux réseaux sociaux.
Un mot de conclusion, Bougnaba.
Il s'agira de passer du profil à la face. Regarder la vie en face et retourner vers le réel.
Merci beaucoup Catherine Lejal, Abdougnaba, Michael Stora et Sébastien Dupont, duplex de France Bleu Alsace. Merci aux équipes sur place. Demain, on s'intéresse au plaisir de l'ivresse, une émission à consommer sans modération. La technique ce matin, David Federman et Julien Michel. À suivre, Nagui et sa bande originale.